très rapidement, je vous dirais que cette prédication m'a été inspirée par une visite automnale au potager du roi. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu merveilleux, c'est le jardin potager du château de Versailles. Alors en ce moment, il est fermé, mais il rouvre au printemps. Jardin conçu et réalisé à l'époque de Louis XIV par Jean-Baptiste Lacquintini. Merveilleux jardin. Et je me suis dit, finalement, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de jardins dans la Bible et je pourrais prêcher sur les jardins. Puis j'ai eu l'idée après, plutôt pour le culte du soir, de se dire qu'après tout, j'avais un collègue qui était spécialiste de la musique baroque de l'époque de Louis XIV, que nous pourrions faire un culte où il m'accompagnera d'ailleurs ce soir au Théorbe avec de la musique de l'époque de Louis XIV. Bon. Mais bon, quand on a des idées comme ça, on a aussi, en se disant, chic alors, le jardin, c'est une très belle idée, c'est merveilleux, ça va être joyeux, ça va être un culte très très joyeux. Et puis en fait, en me penchant sur les textes bibliques, une fois encore, j'ai été un peu étonnée, bousculée, parce que finalement, le jardin dans la Bible, c'est un lieu assez ambivalent. Certes, il y a le merveilleux jardin du Cantique des Cantiques, encore faudrait-il l'approfondir. Mais les autres jardins, que ce soit le jardin d'Éden au début, ou le couple, le premier couple qu'on appelle Adam et Ève, se fait chasser du jardin sans pouvoir même y revenir. Et puis il y a ce fameux jardin de Gethsémané qui est quand même le lieu de l'épreuve par excellence. Alors oui, dans la Bible, le jardin, c'est aussi le lieu de l'épreuve. L'épreuve pour Adam et Ève, mais le jardin, en réalité, les jardins ont bien une spécialité, c'est d'être clos. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'avais une grand-mère qui avait un grand verger derrière sa maison, et du coup, la maison s'appelait le clos, parce que les vergers s'appellent aussi des clos. Donc, ce jardin est clos. Et finalement, moi je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient sortis, parce que s'ils étaient restés à l'intérieur, je ne sais pas trop ce qui se serait passé. En tout cas, l'humanité n'aurait probablement pas pu apparaître. Donc le jardin, c'est un lieu clos, un lieu où on est invité à vivre. C'est difficile d'ailleurs, même en réalité, les jardiniers le savent. Allez les voir s'affairer au potager du roi et vous verrez que le travail du jardinier est compliqué. Et souvent, je pense qu'il est finalement assez proche du jardin du lecteur de la Bible, du travail du lecteur de la Bible. On doit travailler, retourner le texte, et puis parfois on se trompe, il n'y a pas de fruits, et puis parfois on réussit, et finalement le texte que nous avons lu nous apporte une richesse extrême. C'est un peu pareil dans les vergers, c'est un peu pareil dans les potagers. Le travail du jardin est compliqué. Finalement, c'est pas si étonnant que ça soit aussi un lieu d'épreuve et pas qu'un lieu pour se promener de manière tout à fait agréable et joyeuse. Donc, et puis les jardins, alors ça aussi c'est un lieu ambivalent, parce que tous les dictateurs, les tyrans, ont voulu avoir des jardins merveilleux. Alors il y a les jardins suspendus de Babylone, et puis il y a ce fameux jardin du château de Versailles, conçu par Louis XIV avec sur son côté, sa face, je crois que c'est au nord, ce beau potager. Alors finalement, le jardin, en effet, n'est pas toujours un lieu de bonheur, imaginé par la citadine que je suis. Mais voilà, donc je suis tombée sur ce texte qui m'a quand même interpellée. On en parle beaucoup. Je dirais même que plein de gens ont entendu parler de Gethsémané. Alors Gethsémané, ça veut dire le pressoir à huile. Et puis finalement, ce qui m'a un peu intriguée, et je m'en suis aperçue tardivement, c'est qu'on nous dit même pas que Gethsémané est un jardin. Alors, on imagine que c'est un jardin, puisque dans l'évangile de Jean, où Gethsémané n'est pas indiqué et où il ne se vit pas la même chose, on nous dit que Jésus arrive avec ses disciples dans le jardin, là où il avait l'habitude de se rendre avec eux. Donc, Gethsémané, ce lieu particulier, ce lieu de l'épreuve pour Jésus, puis de l'épreuve aussi pour les disciples, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais c'est aussi le lieu de la révélation de l'humanité de Jésus, de son combat. Et c'est certainement ce qui m'a le plus touchée en premier à la lecture et à la relecture de ce texte, parce que on peut faire focus sur l'obéissance de Jésus. En effet, c'est la tradition l'a toujours interprété comme ça. Voilà Jésus qui obéit à son Père. Il est merveilleux, puis de toute façon, comme il est Jésus, c'est normal qu'il obéisse à son Père. Bon, ben, ce genre d'interprétation, ça me gêne un peu, comme si tout était écrit d'avance et comme si c'était naturel d'obéir à son Père. Personnellement, si c'est naturel et si c'est facile, je vois pas pourquoi on nous dit qu'il souffre. Alors, il doit bien y avoir quelque chose d'un peu plus complexe dans ce texte. Dans ce texte qui nous permet d'entrer dans l'intimité de la prière de Jésus. En général, dans les évangiles, on sait pas trop pourquoi il crie. Ou alors, bon, il y a la prière du Notre Père qui nous est enseignée. Et puis, dans l'évangile de Jean, il y a cette longue, cette magnifique prière. Mais il prie pas pour lui, il prie pour les siens. Tandis que là, il prie pour lui. Et c'est quelque chose qui m'a profondément interpellée. Parce que Jésus nous dit à travers cette prière, en nous permettant d'entrer dans son intimité, toute son angoisse, toute sa douleur, toute sa souffrance. Et cette angoisse, cette douleur, cette souffrance, eh bien, elle me rejoint. Elle rejoint mon humanité. Et finalement, le Jésus humain me plaît beaucoup plus que le Jésus divin. Je ne vais pas remettre en cause cette divinité, mais si on ne se focalise que là-dessus, finalement, il est venu, il savait, tout s'est passé comme de ça devait se dérouler, alors il n'a pas souffert, rien. Bon, mais en réalité, si, il est venu, il s'est abaissé, il s'est mis à notre niveau pour vivre ce que nous vivons au quotidien. Cette approche, cette angoisse de la mort, de la maladie, de la vie même parfois, la peur de vivre peut nous amener à l'angoisse. Eh bien oui, il est triste à en mourir. Et cette tristesse, cette douleur, il la partage avec ses proches, ses plus proches, ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, avec qui, eh bien, il a déjà vécu de nombreuses choses. Eux qui ont assisté à la transfiguration, eh bien, eux sont là avec Jésus dans le jardin et même pas capables de partager un minimum sa souffrance et son angoisse. Donc, en effet, personnellement, je préfère mettre le focus sur la souffrance de Jésus qui révèle son humanité. Alors oui, il prie, il combat, il lutte presque comme on pourrait dire comme un athlète. Il lutte en effet. Dans l'évangile de Luc, on nous en rajoute une couche, on nous dit même qu'il transpire des gouttes de sang. Alors je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire transpirer. Bon, c'est une maladie, je ne sais pas quelle est la signification, mais en tout cas, ça nous montre sa souffrance extrême. Et à l'époque de Jésus, on disait que les athlètes, quand ils étaient au bout du bout, ils allaient jusqu'au bout pour gagner. Eh bien, ils transpiraient aussi des gouttes de sang. Donc, on voit que Jésus est au bout du bout. Son combat, il l'a mené jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement. Et là, il combat avec une arme bien spécifique. Il combat avec l'arme de la prière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent, on s'interroge, à quoi ça sert de prier? Est-ce que prier, eh bien, tout? Est-ce que si je prie, eh bien, Dieu va répondre immédiatement à mes demandes? Est-ce que Dieu répond aux demandes de Jésus? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jésus, lui, ne prie pas comme la plupart d'entre nous prient. Il ne dit pas, voilà, je voudrais ça, allez, fais que ça soit, que cela arrive. Non, il dit simplement ce qu'il a déjà énoncé dans le Notre Père, mais là, il le vit. Entre le dire et le vivre, c'est deux choses différentes. Il dit, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, eh bien, peut-être qu'elle n'est pas toujours en accord avec notre volonté. C'est quelque chose que l'on peut découvrir là aussi. La volonté de Dieu n'est pas toujours en accord avec ce que nous attendons. Et le Christ a cette prière extraordinaire et lui dit « Que ta volonté soit faite ». Il se remet complètement à Dieu, il se remet complètement à son Père. Il faut dire qu'il avait déjà mené un combat similaire, rappelez-vous, au début, avec la tentation lorsque l'Esprit l'amène dans le désert. Mais ici, il n'y a plus Satan, il n'y a plus que Jésus seul. Et ce combat, il le mène contre lui-même presque. Donc, je mets le focus sur le combat aussi, pour éviter une certaine lecture sacrificielle qui pose une question essentielle. Comment comprendre qu'un père puisse offrir son fils ? Non mais franchement, quelle image de Dieu ! Un Dieu qui donnerait son fils, allez, sa volonté serait justement de livrer son fils pour qu'il meure sur la croix. Est-ce vraiment cela le message de l'Évangile ? Parce que ce Dieu-là, moi personnellement, j'en veux pas. Personnellement, ce Dieu-là, je n'en veux pas. Un Dieu qui offrirait son fils pour, je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour me racheter. Je sais pas pourquoi, parce que quelqu'un meurt, ben, je serais racheté. Je vois pas vraiment le rapport. Non. Ce qui se joue là est certainement beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin. En effet, Jésus sait qu'il doit mourir, mais il a mené ce combat. Il le sait parce que il avait une mission bien précise, celle de nous donner son enseignement, de nous rappeler tout l'amour de Dieu. Et cet enseignement, ce que, eh bien, dans l'évangile de Jean, on appelle la lumière n'a pas été reçue. Et à partir du moment où la lumière n'est pas reçue, eh bien, il faut peut-être que le combat s'achève pour qu'elle puisse renaître différemment. Il y a quelque chose qui m'a permis de sortir justement de cette interprétation où on aurait un Dieu quand même pas très sympathique qui livrerait son fils. Je me suis beaucoup questionnée sur cette histoire de coupe. Pourquoi il dit « éloigne de moi la coupe, je ne veux pas boire de la coupe », etc. Surtout que la coupe dans la Bible, si on fait un peu attention, eh bien là aussi c'est un peu ambivalent. La coupe de toute façon n'a rien de négatif. Ce qui est négatif, c'est ce qu'on met dans la coupe. Alors, chez les prophètes, on le voit bien. Il y a chez Esaïe, c'est la coupe dedans, c'est la colère de Dieu. Alors évidemment, quand on boit la colère de Dieu, eh bien, vous imaginez bien qu'il nous arrive des choses assez désagréables. Mais chez Jérémie, eh bien, c'est la coupe de la consolation, la coupe du réconfort que Dieu donne à boire à son peuple. Alors oui, là, c'est quelque chose de positif. Et vous l'avez entendu dans ce fameux psaume 23 que nous disons si souvent lors des cultes au moment de la louange ou de la confession de foi. Lorsque le psalmiste, celui qui prie, dit « ma coupe déborde », eh bien c'est parce qu'il est plein de bonheur quand il dit « ma coupe déborde ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de coupe ? Je me suis un peu intéressée à ce que c'était un peu que la coupe dans la Bible. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un truc un peu ambivalent. Et puis, je suis tombée sur une petite histoire qui m'était passée complètement à côté, une parabole qui se situe dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12. C'est le prophète Nathan qui vient voir David. Bon, David vient d'envoyer à la mort Uri, l'époux de Bethsabée, parce que comme il l'aime beaucoup, Bethsabée, il n'avait pas envie d'avoir son mari dans les pattes, donc il l'a envoyé, il est mort. Donc, voici ce que Nathan dit à David. Nathan vint à David et lui dit, « Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arrive chez l'homme riche et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. » Alors, évidemment, cette parabole est dite dans un contexte, mais comme on le dit toujours, eh bien, ces histoires sont là pour nous dire, nous parler encore aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que ceux qui suivent le catéchisme du mercredi soir de Louis ont bien entendu mercredi dernier, ici et maintenant. Et donc, cette parabole, elle est aussi à interpréter dans d'autres contextes. Et moi, j'entends dans cette histoire l'histoire d'un homme qui n'a qu'une brebis, mais cette brebis, il en prend soin. Il l'élève, il lui donne à boire, à manger dans sa coupe. On nous dit qu'il l'élève comme une fille. Et puis, un autre qui est rempli de richesses. Mais vous savez, la richesse dans la Bible, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est aussi riche de ce que l'on croit être nos vérités, riche de ce que l'on croit être nos traditions, riche vouloir conserver tout cela. Eh bien, qui est-ce qui veut conserver ces richesses-là à ce moment, lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané? Ce sont bien ce qu'on appelle les pharisiens, les scribes, toute cette intelligentsia juive qui veut absolument conserver tout tel qu'il le veut pour conserver en fait son pouvoir. Et Dieu, eh bien, c'est pas courant, mais en effet, est pauvre, pauvre de ce que l'on ne l'entend pas, ne l'écoute pas. Il n'a qu'une chose, cette brebis, ou son fils qu'il est en quelque sorte. Mais son fils, personne ne l'entend. Non seulement personne ne l'entend, mais ce sont justement ceux qui sont riches, riches de vérité, qui ne veulent pas entendre l'amour proclamé, la vérité que le Christ est venu interpréter, incarner même. Ils ne veulent pas la recevoir, eh bien, cela va disparaître. C'est eux, en réalité, qui vont tuer le Christ. C'est eux qui vont le clouer sur une croix. Et ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est eux qui n'ont pas su entendre, qui n'ont pas su interpréter, qui n'ont pas su accueillir cette vérité et cet amour. Et en effet, il y a de cela. Alors vous me direz, oui, mais la coupe. C'est pas parce qu'il y a juste le mot coupe là que... Eh bien, tout de même, ça donne une autre idée de la coupe. Il y a un renversement, là déjà vous l'avez vu dans la parabole, mais il y a le renversement aussi sur la coupe. Parce que c'est peut-être la coupe qui a toujours été assimilée à la mort, mais est-ce que ce n'est pas la coupe de la vie que le Christ ne veut plus boire ni manger, il ne veut plus en boire, parce qu'il le sait, maintenant son message n'est pas passé, il ne passera pas, mais lui ne se reniera pas, il ne prendra pas ce qu'il faut pour vivre encore et encore, parce que la coupe que Dieu nous donne est aussi une coupe de vie, une coupe qui nous permet de nous nourrir. Et en effet, cette coupe, il veut qu'elle s'éloigne, parce que voir les choses à ce moment-là de manière positive, de manière trop vivante, eh bien, cela le rendra encore plus difficile, le fait d'avoir à quitter les siens, à mourir sur la croix. Alors oui, il y a quelque chose là, avec cette histoire de coupe, qui nous dit que ceux qui tuent Jésus, ce n'est pas Dieu, mais c'est bien les humains là, qui ne veulent pas l'entendre, l'accueillir, l'écouter. Et puis pour terminer, je voudrais faire un focus sur les disciples. Ces disciples qui comprennent décidément rien. Alors, dans l'évangile de Matthieu, ils sont mieux traités que chez Marc, mais quand même là, ils comprennent pas. Encore une fois, ils ne sont même pas fichus, eh bien, de veiller et prier. On leur demande pas grand-chose. Juste avant, Pierre et les autres disaient « Nous, on ira jusqu'à la mort avec toi ». Bon, Jésus leur avait dit « Attention, Pierre, déjà toi, tu vas me renier 3 fois. Mais non, on ira jusqu'à la mort avec toi. » Et là, quelques minutes, quelques instants après, ils s'endorment. Et le sommeil, c'est souvent ça signifie aussi la mort peut-être d'eux, en tout cas la mort à venir du Christ. Mais voilà, ils prient, ils dorment, ils ne sont même pas capables de veiller. Les scouts le savent, il faut être toujours prêts. Eh bien non, eux, ils ne sont prêts à rien. Ils auraient pu partager quand même, ils auraient pu partager ces moments avec le Christ, même si lui prie de son côté. Il leur demande de prier. Ça nous dit surtout toute l'importance de la prière qui est une arme. Et d'ailleurs, Jésus a lutté avec cette arme, celle de la prière. Ils auraient pu lutter à ses côtés. Parce que, et là aussi, on a les traces du Notre Père, et finalement d'une manière plus claire que dans le Notre Père, puisqu'il ne leur dit pas, je sais plus quoi, là, ce qu'on n'arrive pas à traduire par rapport à la tentation ou l'épreuve, il dit « Priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve ou dans la tentation », suivant les traductions. Eh bien oui, la prière nous empêche d'entrer dans l'épreuve, dans la tentation. C'est notre arme, c'est l'arme que Dieu nous donne, que le Christ nous a offert, nous a rappelé. Cette arme, nous l'avons. Alors oui, ils n'en sont même pas capables. Mais finalement, je trouve que c'est assez réconfortant pour nous. Il fallait que ces humains, ces disciples, ne soient pas complètement exemplaires. Il fallait qu'ils soient humains. Car si les disciples avaient été exemplaires, est-ce que nous aurions pu, est-ce que vous auriez pu, est-ce que j'aurais pu m'inscrire dans leurs pas? Probablement pas. Finalement, ils sont humains. Ils sont faillibles. Et ils sont d'autant plus faillibles lorsqu'ils disent qu'ils sont infaillibles. Mais ça, c'est tout problème de notre existence et ça doit nous questionner aussi. Et finalement, la médiocrité des disciples fait écho à notre propre médiocrité. Mais leur médiocrité, notre médiocrité, nous dit aussi tout l'amour que Dieu a pour nous. Parce que malgré tout et contre tout, eh bien c'est bien avec eux que l'Église va se construire. C'est bien à eux que le Christ va confier son Église, à Pierre en premier et aux autres, à Jean suivant les évangiles. Donc, et le Christ leur fait confiance. Il sait, ils sont faillibles. Mais c'est avec cette faillibilité, eh bien, que le monde peut se construire. Et c'est sur là-dessus que Dieu construit le monde. Et c'est en nous qu'il pose sa confiance et son amour. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ses disciples, heureusement qu'ils ne sont pas exemplaires, parce que nous pouvons en effet mettre nos pas dans les leurs. Mais je voudrais conclure en disant deux choses. La première, c'est que je dis que le jardin, c'était un lieu clos. Mais il y a dans la Bible un livre clos, un livre qui est notre jardin intérieur. Et justement, ce livre, c'est les psaumes, ces prières. D'ailleurs, Jésus s'inscrit complètement lorsqu'il prie là à Gethsémané, dans le mouvement de ces psaumes. Ces psaumes qui nous permettent de nous dévoiler, de nous dénuder devant Dieu, de dire tout ce que nous avons pour pouvoir avancer encore et aller louer vers la louange. Et en effet, c'est notre jardin. Alors ce jardin, il faut le cultiver en priant, en lisant, en cherchant. Et en effet, cultivons notre jardin intérieur, que c'est ce que nous a offert Dieu, ce jardin intérieur. Et puis je voudrais terminer surtout sur un jardin, un autre jardin, qui est lieu de l'épreuve aussi, puisque c'est le jardin de la résurrection, le jardin là où Marie-Madeleine, au jour de la résurrection, va découvrir le Christ. Mais il lui faut passer par l'épreuve du deuil, de la quête, de la recherche de Jésus pour enfin le reconnaître et dévoiler, et que le ressuscité puisse se dévoiler à elle. Et en effet, les jardins, c'est le lieu de l'épreuve dans la Bible, mais cette épreuve n'est jamais la fin. Parce qu'avant tout, le jardin, c'est le lieu de la révélation. C'est aussi le lieu du bonheur, du bien-aimé pour sa bien-aimée dans le Cantique de Cantiques. Et c'est le lieu de la résurrection, le lieu où nous sommes relevés, envoyés, relevés nous aussi, donc ressuscités, co-ressuscités avec le Christ et envoyés dans le monde pour proclamer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu indéfectible. Amen.